émission spéciale sur les ondes de Radio Primitive. Exposition Arcadia, Léa Belousovitch, Charles de Neubach. Une émission spéciale réalisée en partenariat avec la ville de Reims. Depuis le 8 décembre et jusqu'au 3 mars prochain, vous pouvez découvrir au Cellier l'exposition Arcadia. Durant cette émission spéciale, nous explorerons l'espace d'exposition du Cellier et nous évoquerons, bien sûr, le solo show de Charles de Neubach et celui de Léa Belousovitch qui constitue l'exposition Arcadia. Cette émission sera découpée en trois chapitres. Un premier chapitre avec Elsa Bézori, responsable de la fileuse à la direction de la culture et des patrimoines de la ville de Reims et curatrice de l'exposition. Un deuxième chapitre sera en compagnie de l'artiste Léa Belousovitch. Et enfin, un dernier chapitre avec Fanny Marlot, responsable de production de projets culturels arts visuels à la direction de la culture et des patrimoines de la ville de Reims. Êtes-vous prêt pour ce voyage en Arcadie ?
Je m'appelle Elsa Bézori, je suis la commissaire d'exposition ou curatrice, parce qu'on peut dire les deux, de l'exposition Arcadia, qui présente deux solo shows, un de Léa Belousovitch qui s'appelle Lisière, et puis un autre de Charles Neubach qui s'appelle Peinture augmentée. Et ça se passe au Cellier.
Alors merci de nous recevoir aujourd'hui, non pas au Cellier, mais à la fileuse. Alors avant même de parler d'Arcadia et aussi plus globalement des cycles d'exposition proposés, est-ce que c'est possible d'expliquer aux auditeurs et auditrices pourquoi nous sommes à la fileuse puisqu'il est question d'une exposition au Cellier ?
Alors ça, effectivement, c'est un fonctionnement et des explications un peu administratives et métiers. Effectivement, je suis au quotidien directrice donc, de la fileuse et il se trouve qu'à côté de cette activité qui est mon métier principal, j'ai également une casquette de commissaire d'exposition que je peux faire ici pour le compte de la ville de Reims, mais que je pourrais également faire pour d'autres lieux. C'est une activité parallèle que je développe. Il se trouve que le Cellier, qui est donc le centre culturel de la ville de Reims, sont des collègues, on appartient à la même direction, la direction de la culture de la ville, propose des expositions. Il y a une programmation qui est en cours et qui est donc gérée par le Cellier. Et j'ai tout simplement fait une proposition de trois expositions, donc d'un cycle d'expositions sur 3 ans au Cellier, qui a commencé donc en 2021 et qui se clôture avec Arcadia, cette troisième et dernière.
Quand on parle de proposition d'exposition, c'est-à-dire les thématiques générales, l'idée, ce qui va être proposé dans le cadre de ce cycle-là, les artistes ?
Oui, en fait, une programmation d'exposition, la programmation d'un lieu, ça s'appuie sur un tissage de plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'on programme soit des esthétiques, soit des thématiques, soit également en fonction de critères de politique culturelle. Est-ce qu'on veut montrer des artistes qui vivent sur notre territoire ? Est-ce qu'on veut aller chercher des jeunes artistes ? Est-ce qu'on veut aller chercher des artistes très confirmés ? Et tous ces éléments mis bout à bout, en fait, construisent ce qu'on appelle une programmation. Par exemple, au Cellier, la programmation depuis 3 ans, ça a été une alternance entre une grande exposition de photos portée par Le Jeu de Pommes, qui est un de nos partenaires, et puis ce cycle d'exposition d'art contemporain qui réunissait non seulement une thématique, mais également un artiste de notre territoire et un artiste que l'on est allé chercher ailleurs avec déjà une belle carrière, quelqu'un qui est repéré par les réseaux. Et il se trouve que cette personne-là, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est Léa Belousovitch.
Charles de Neubach, qui est présent dans l'exposition, est un artiste qui est passé par les murs de la fileuse à un moment. Ça aussi, c'est des histoires, des liens entre le lieu, les artistes, et puis ça emmène vers d'autres lieux de la ville.
C'est exactement ça. Le but n'était pas temps de choisir des artistes qui étaient forcément passés par la fileuse, mais il se trouve que c'est aussi comme ça que moi, je peux rencontrer des artistes d'ici. Donc on va dire que c'est logique, mais ce n'était pas forcément ce qui était au départ recherché. Ce qui était recherché, c'était d'avoir un artiste dans lequel on croyait, dans lequel je croyais, et qui est issu de notre territoire, et de le mettre en regard, de lui proposer d'exposer aux côtés d'un artiste qu'on est allé chercher pour voilà, son talent, et puis parce que c'est des artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait chez nous. Et c'était bien de pouvoir proposer les deux formats au sein d'une même exposition, et c'est pour ça qu'en fait on parle de deux solo shows. Alors le terme est anglais, mais c'est comme ça qu'on dit dans le milieu. Quand c'est une exposition avec plusieurs artistes sur les mêmes murs, on parle d'un groupe show. Et quand on expose deux projets qui sont vraiment très autonomes, mais voilà, qui peuvent être aussi dans le même lieu, on parle de solo.
En parlant de solo show, il y a donc deux solo shows dans l'exposition, mais sous le titre d'Arcadia, donc un titre commun. Alors oui, après il y a des sous-titres, mais un titre commun. Pourquoi dans le dossier de presse il y avait des extraits d'un cartel, je pense. J'ai commencé à lire cela, mais je pense que ce serait plus intéressant, puisque j'ai vu qu'à l'écriture vous étiez cité, de me parler de ce titre Arcadia et pourquoi.
Alors effectivement, ça c'est la proposition générale. En fait, il y a plusieurs manières de faire du commissariat d'exposition et de proposer des expositions. Celui que moi je pratique, en tout cas pour ce moment-là, ça a été de partir d'une idée qui est celle de l'Anthropocène, on y reviendra peut-être, d'en tirer des intuitions et de les proposer aux artistes comme point de départ de leur, non pas du travail qu'ils allaient produire, mais d'essayer de voir si entre l'intuition que je propose et leur travail, il y a un point de rencontre possible. Ensuite, chacun développe et montre les œuvres qu'il a déjà faites, suivant son propre projet. Mais en fait, le titre Arcadia est un point d'entrée, un point d'éclairage sur les deux solos en fait proposés, qui ont été faits justement pour d'autres raisons que celles pour lesquelles forcément on les montre. Et cette manière-là de penser rejoint en plus le propos de l'exposition, qui est la rencontre entre un savoir, une volonté, une envie d'un artiste qui fait des œuvres pour une raison bien précise qui lui appartient, et puis la manière que l'on a de recevoir cette œuvre, qui est celle du regardeur. Alors le regardeur, ça peut être vous, moi, parce qu'on va visiter une exposition, mais le regardeur, c'est aussi celui qui va monter l'exposition. C'est-à-dire le commissaire d'expo, il est tout aussi regardeur que voilà, le visiteur du samedi après-midi. Et cette manière-là de faire montre que c'est une idée maintenant assez connue, répandue, c'est pas la seule, que l'œuvre est autant faite par celui qui l'a fait que par celui qui la voit. L'un n'exclut pas l'autre.
Je veux bien savoir à quel moment arrive l'Anthropocène et puis donc et l'Arcadie. J'ai bien compris, je pense que tout le monde a bien compris cette intention qui est portée, mais j'aime les mots et les petites histoires. Donc.
Alors, ça part d'un énervement. Voilà, tout simplement, au lendemain du Covid, tout le monde a beaucoup parlé d'écologie et d'écosystème, particulièrement dans la culture. Et je trouve que c'est un sujet voilà, qui m'intéresse. Et je me rendais compte que beaucoup de mots liés à ce développement durable, soutenable, à cette écologie, étaient beaucoup employés sans que forcément ils ne soient compris. Demander dans la rue à des gens ce qu'est un écosystème, très peu sont capables de vous donner une réponse qui est scientifique, qui est rationnelle et qui est vraiment celle voilà, que l'on a quand on parle de développement durable. Alors quand en plus on parle d'écosystème dans le champ des arts et de la culture, on s'y perd et on emploie un mot pour un autre. Et donc là encore, cet énervement, c'est oui, on peut faire des expositions sur l'Anthropocène, on peut faire des expositions sur le développement durable, mais souvent les œuvres sont plutôt des prétextes et pas forcément traitées pour elles-mêmes. Et donc de ce petit constat, voilà, dans un coin, est venue une idée. Puisque, et donc je vais donner une définition puisque j'aime ça, un écosystème, c'est un ensemble de relations entre un être vivant et son milieu. C'est-à-dire le milieu, c'est ce qui l'environne. Ça peut être d'autres êtres vivants et c'est d'autres types de données. Disons, qu'est-ce qu'un écosystème dans le domaine des arts visuels ou dans le domaine d'une exposition? Et quand on répond juste à cette question, on est obligé de se demander qu'est-ce qui fait exposition? Ce qui fait exposition, Plusieurs réponses sont possibles. Celle que nous, on a proposée, c'est de dire que ce qui fait exposition, c'est un espace. Ça a lieu quelque part. Ce sont des choses qui sont dans cet espace. On va appeler ça des œuvres. Et puis, c'est la relation que l'on a à ces œuvres et c'est l'expérience. L'expérience de celui qui fait les œuvres, l'expérience de celui qui regarde les œuvres. Et en partant juste de cette petite définition, on avait un moyen de dérouler les trois thématiques de ce qui fait exposition. Parce que ce n'est pas évident, en fait, de se dire à quoi ça sert une exposition, pourquoi on va avoir une exposition. Et ce qui était intéressant, c'est que chacun de ces trois thèmes permettait de mettre en lumière des façons d'être qui, en fait, ont conduit notre humanité à la situation de l'anthropocène. Quand on n'est pas conscient de l'espace qui nous entoure, on ne peut pas être conscient qu'il y a une forêt qui brûle à 3000 km, si on ne sait pas ce que déjà représente un mètre. Et là, il y a plein d'œuvres qui nous parlent de ça, c'est-à-dire qui nous permettent de nous rendre compte de ce que c'est que l'espace. Tout comme un objet d'art, c'est un objet qui est quoi ? De consommation ? Quel rapport on a à la consommation ? Est-ce que c'est notre prédation naturelle qui fait que l'on en veut toujours plus ? Pourquoi est-ce qu'on veut posséder ? Pourquoi est-ce qu'on veut posséder une œuvre ? Ça, on répondait à la deuxième, lors de la deuxième exposition. Et puis, il y a la capacité à être en empathie, à prendre en compte une altérité, l'altérité des autres êtres humains, mais finalement, l'altérité qu'on nous demande d'avoir pour être en empathie avec la nature qui nous entoure est exactement de la même nature, justement. Et bien, il y a des œuvres qui nous parlent de ça, c'est-à-dire de notre capacité à porter un regard sur autre chose que nous-mêmes. Et donc, en fait, c'est espace, objet, expérience permettait de mettre un petit focus sur trois manières d'être qui nous ont conduit à impacter la nature à ce point qu'on parle aujourd'hui d'anthropocène. Et ce qui était intéressant, c'était de se demander si ces trois manières d'être qui nous ont conduit à cette catastrophe ne pouvaient pas contenir également en germe les manières d'être qui nous permettraient d'en sortir. Voilà, c'est ça le propos général de ce cycle d'exposition.
Cela se veut positif, donc ?
Ça se veut très positif, parce que tirer un constat n'est pas forcément se voiler la face et penser qu'on ne peut rien faire. Il y a je pense que dans la manière de recevoir les œuvres, et c'est la dernière exposition, on parle beaucoup de ça, cette notion d'empathie est extrêmement positive. Ce qui nous a conduit à faire que le paradis est un petit peu perdu, c'est qu'on a beaucoup visé un bonheur, et que ce bonheur individuel a conduit peut-être à certains dérèglements, mais en même temps, il montre bien que l'on est en capacité de se mettre en connexion avec autre chose que soi-même. Et le point central, c'est qu'on a choisi des artistes, deux types de travail, celui de Léa et celui de Charles, qui sont très forts et qui demandent absolument à ce qu'un regard soit porté sur une matière, sur une pensée. Le travail de Charles est plus dans une perception visuelle et physique. Celui de Léa est vraiment dans une capacité à se mettre en empathie avec une œuvre.
Émission spéciale sur Radio Primitive, Arcadia au Cellier de Reims jusqu'au 3 mars 2024. Et nous sommes toujours en compagnie d'Elsa Bézori.
Est-ce que les œuvres dans l'espace d'exposition, est-ce que, puisqu'il s'agit de deux solo shows, mais est-ce qu'il y a une discussion entre ces deux artistes au travers de leurs œuvres, de l'accrochage?
Alors, c'est là où on a essayé effectivement de bien faire les choses. Chacun a vraiment travaillé pour lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œuvres qui ont été faites par rapport au travail de l'autre artiste. Ce n'était pas le point de départ. Ce n'est pas comme ça qu'on l'avait présenté ni à Charles ni à Léa. Ensuite, quand on monte une exposition dans un lieu qui en plus est ouvert, sur lequel il y a des points de fuite, et en plus quand on prétend parler d'altérité, on a monté l'exposition avec les deux artistes présents au même moment et qui ont justement eu des points de vue sur la confrontation de leurs deux univers qui sont radicalement différents, qui n'ont strictement en fait rien à voir du point de vue formel, mais qui au sein du même espace créent des discussions, des perspectives qui sont intéressantes à l'œil. Et une fois que c'est intéressant à l'œil, peut-être que ça peut générer quelque chose d'intéressant pour la pensée. Mais ça, c'est chacun qui le voit en étant sur place.
Dans cette émission, on va pouvoir discuter avec Léa, mais pas avec Charles, qui est fort occupé actuellement. Est-ce que c'est possible de nous parler de son travail dans cette globalement peut-être déjà, et dans cette exposition, plus spécifiquement les œuvres proposées?
Alors effectivement, c'est lui qui serait bien mieux placé que moi. Je vais essayer d'être un médiateur là en la matière. Charles, ce qui lui a été proposé, c'est le titre d'ailleurs, Peinture augmentée, fait vraiment référence à ça, c'est de revenir à un projet d'exposition qui soit avant tout pictural. Charles Neubach est quelqu'un qui fait beaucoup d'installations, qui a beaucoup été vers de la lumière, des adjonctions de son, qui va vers des choses de l'ordre de l'installation et de la performance. Et son travail ayant une vibration intérieure, il parle souvent de ça, c'est-à-dire qu'il fait des grilles, il fait des trames qui sont comme une sorte de vibration intérieure. L'idée était, parce que ça aussi c'est un point important par rapport à notre anthropocène, de dire est-ce que la seule peinture sans autre augmentation technologique peut vibrer et nous amener dans un imaginaire. Aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, etc., on a tendance à avoir une imagination qui est fortement soutenue par la technologie. Et là, on avait envie de montrer que le travail de Charles, qui souvent fait appel à la technologie, pouvait avoir exactement le même impact sur nos imaginaires sans la technologie. Et c'est pour ça que son exposition s'appelle « Peinture augmentée ». En fait, la peinture n'a pas besoin d'autre augmentation que la seule projection que nous on fait dessus pour être plus grande qu'elle-même. Alors, il y a dans l'exposition un moment où il y a une augmentation par une technologie, mais qui est vraiment minime et qui permet justement de montrer que sans cette technologie-là, la peinture est quand même très forte et quand même très mouvante. Et donc, c'était revenir à quelque chose, finalement, de très analogique, de très simple.
Dans le cadre de ce cycle d'exposition, il y a déjà des dates qui sont passées, hein, vous l'avez dit. Est-ce que vous avez déjà des retours sur la programmation qui a été proposée ?
Sur les 3 ans, vous voulez dire? Oui, c'est vrai qu'on a eu un public qui a attendu la suite. On voulait aussi créer ça, c'est-à-dire comment fidéliser un public dans un centre culturel qui finalement est assez jeune, qui a ouvert en 2015. C'est encore très récent finalement, 2015 plus les années Covid. Donc ça a été un point vraiment positif sur la création d'un public pour ces expositions-là. La suite dira si ce public revient pour les autres propositions que le centre culturel pourra faire.
Et les retours d'artistes, est-ce qu'ils ont réussi à se saisir du lieu? Car on l'a dit, c'est finalement, il est tout jeune.
Oui, le lieu est tout jeune. Alors, ce qu'il y avait de très bien, c'est surtout que c'est quelque chose qui a permis de faire connaître le lieu en dehors de Reims. C'était l'intérêt aussi d'inviter des artistes qui ne résident pas chez nous. Ça a surtout donné la possibilité pour nos artistes résidant sur le territoire. Là, je pense beaucoup à Charles, mais également l'année dernière à Juliette Mock, qui est une artiste qui est entre Paris et Reims, mais qui a fait les SAD de Reims, d'avoir la possibilité de se confronter à un lieu qui est grand, qui est imposant, avec des moyens professionnels, et donc de faire un vrai solo show en toute liberté, c'est-à-dire avec le moins de contraintes possibles, parce que moi je pose sur la table une thématique, ce genre de réflexion qui appartient un peu à la question et de l'esthétique et de la philosophie, de la socio, enfin voilà, ce genre de choses, mais ensuite c'est le travail de l'artiste qui parle, et le but n'est pas d'illustrer le propos que je tiens, le but c'est de poser un propos, poser des œuvres et de dire aux visiteurs, faites vous-même le lien entre les deux. Et ça, voilà, l'effet positif, il a été là. Il a été aussi de faire comprendre, alors à un public peut-être un peu choisi, qui a l'habitude des expositions, quel était l'intérêt d'avoir des curateurs. L'intérêt d'avoir un curateur, c'est à un moment donné que l'artiste ne peut pas être au four et au moulin. Il fait son travail déjà, mais si en plus il doit être le médiateur de son propre travail et donner la justification de sa propre présentation, c'est pas forcément l'endroit où il est le plus à l'aise. Et donc c'est bien d'avoir des intermédiaires. Par exemple, ça paraît très logique quand on parle du spectacle. Si vous êtes abonné à la Comédie de Reims, par exemple, vous pouvez aller voir des spectacles parce que vous connaissez l'auteur d'une pièce, vous pouvez aller voir des spectacles parce que vous avez déjà vu cette compagnie qui passait, mais la plupart du temps, vous faites confiance à la programmation du lieu et vous vous dites, parce que ça passe à la Comédie, je vais y aller parce que j'aime bien ce qu'ils font. Mais la Comédie ne propose pas son propre travail, la Comédie fait juste la médiation entre vous et des projets artistiques. Eh bien, un centre culturel, une programmation, le travail d'un commissaire d'exposition, c'est exactement la même chose. C'est faire la médiation entre un travail artistique et un public. Voilà, voilà ce à quoi on sert.
De grandes responsabilités.
Éthique, morale, sans doute, et surtout de manière à faire reconnaître aussi que le métier d'artiste plasticien est un métier à part entière qui consiste à faire des œuvres, mais pas forcément, effectivement, à être son régisseur d'expo, et son monteur, et son communicant. C'est ça aussi qu'on vise dans cette programmation. En tout cas, la ville est attachée depuis très longtemps à la professionnalisation des artistes, et en proposant des expositions où finalement la ville est dans le rôle de la production, elle permet à ces artistes de se concentrer sur ce qui fait leur travail, c'est-à-dire produire des œuvres.
Vous êtes à l'écoute de Radio Primitive dans une émission spéciale consacrée à l'exposition Arcadia. À présent, intéressons-nous au solo show de Léa Belousovitch, Lisière. Bonjour Léa Belousovitch, merci de répondre à nos questions par téléphone car vous êtes repartie en Belgique depuis l'installation de Arcadia. On est ensemble pour parler d'Arcadia et plus spécifiquement votre solo show au sein de cette exposition qui est donc visible au Cellier jusqu'à début mars, Lisière. Merci à vous tout d'abord d'être à nos côtés, même à distance.
Merci à vous, merci pour l'invitation.
Lisière, solo show proposé au Cellier. Il y a également cette thématique plus globale dont nous a parlé Elsa Bézori par rapport à Arcadia. Avant de parler de la façon dont vous avez choisi vos œuvres, dont vous avez travaillé avec Elsa pour faire cette sélection d'œuvres qui est visible au Cellier, est-ce qu'on peut revenir un peu sur vous et sur votre parcours artistique avant de parler de votre travail plus spécifiquement?
Oui, tout à fait. Donc moi, je suis française, j'ai grandi à Paris, j'ai fait 2 années de classe préparatoire à Paris après le baccalauréat, avant d'intégrer l'école de la Cambre à Bruxelles en Belgique, donc école de la Cambre à l'atelier de dessin. Donc vraiment, on étudie voilà dans une section en particulier pendant 5 ans, c'est niveau master. Et puis à la fin de l'école, donc j'ai terminé en 2014, j'ai enchaîné un certain nombre de résidences pour artistes en Belgique, des prix, des concours. Voilà, j'ai fait grandir vraiment petit à petit mon réseau et diffuser de plus en plus mon travail, d'abord plus en Belgique. Et puis ensuite en France, parce que j'ai commencé une collaboration avec une galerie qui est à Paris, qui s'appelle la galerie Paris B. Donc voilà, après la diffusion du travail s'est étendue aussi en France. Donc voilà, je suis pour l'instant un peu entre la Belgique et la France.
Les œuvres qu'on peut voir au cellier sont principalement des œuvres sur tissu feutre faites au crayon de couleur. C'est l'une de vos techniques de prédilection. Est-ce qu'on peut également l'évoquer ?
Même plus qu'un... En fait, on pourrait même pas dire le mot tissu pour le feutre, on pourrait plutôt dire le mot textile, parce que vraiment, c'est une matière qui n'est pas tissée, qui est vraiment composée de fibres de laine tressées entre elles. Et effectivement, c'est une technique que je pratique maintenant depuis une dizaine d'années, que j'ai commencé déjà quand j'étais étudiante à la Cambre. Et voilà, il y a eu évidemment plusieurs étapes, plusieurs types de feutres que j'ai testés, plusieurs épaisseurs, plusieurs types de blancheur, plusieurs compositions de laine. Et voilà, donc c'est un travail vraiment, je pourrais dire, c'est la colonne vertébrale de ma pratique d'artiste, ce travail de dessin. Et donc, c'est effectivement un travail de dessin au crayon de couleur appliqué directement sur le feutre textile. Donc, c'est un feutre qui est assez épais, qui fait 6 mm, qui est composé de 100%, enfin, de fibres de laine de mouton, en fait, sur lequel j'applique donc directement mon crayon sans dessin préparatoire, en travaillant vraiment par le geste, enfin, dans la masse, presque plus comme un travail de peintre finalement, pas du tout au trait, donc dans cette visée floue. Et je m'appuie à chaque fois, je pars de recadrages, de morceaux d'images qui sont issus de la presse ou de l'univers médiatique en général, que je dessine donc de manière totalement floue, donc en partant d'une image nette. Donc voilà, après, ça, sur 10 ans, ça a pris évidemment plusieurs formes. Il y a eu plusieurs formats, plusieurs séries d'œuvres différentes, plusieurs types d'événements que j'ai traités. Et ici, dans les œuvres, dans l'exposition d'hier, ce sont vraiment que des nouvelles œuvres, donc qui ont été vraiment pensées pour le projet d'exposition, en relation avec le lieu aussi, qui est quand même assez particulier. Mmh. Et voilà, donc c'est vraiment un nouvel ensemble d'œuvres.
On va reparler bien sûr de l'intention de ce que vous essayez de transmettre en retravaillant des photographies. Mais avant cela, je voulais savoir si cette façon de travailler au crayon de couleur et donc sur du feutre textile, est-ce que c'est la technique que c'était une technique que vous appréciez et c'est ça après où vous êtes, je peux m'en servir pour faire ressortir certains types d'émotions, retravailler à partir de photographies, ou si c'est l'inverse, si vous êtes dit je vais travailler à partir de photographies, et comment je puis le traduire, dans quel ordre ça s'est mis en place?
Je pense que c'est venu, bon déjà c'est né quand j'étais encore étudiante, donc vraiment j'avais déjà une préoccupation sur le fait de représenter, enfin d'aller d'un passage de quelque chose de très très net et précis à quelque chose de flou, enfin en tout cas qui se situe à un entre-deux entre l'abstraction pure pardon et le trop reconnaissable, on pourrait dire. Donc ça a toujours été un questionnement purement de dessinateur, voilà, qui est assez ancien. Après ça c'est voilà, ça a grandi avec le temps et je pense qu'il y a plutôt l'intention de vouloir traiter un certain type d'événement et de le traiter par cette technique qui est vraiment propre à moi-même. Enfin c'est une technique que j'ai inventée, donc c'est vraiment une espèce de patte quoi, enfin de technique voilà assez unique. Qui a beaucoup évolué et que voilà, c'est ma manière de traiter en tout cas ces images-là, c'est une branche de mon travail. Après, il y a aussi d'autres œuvres qui utilisent d'autres formes, d'autres techniques, parfois aussi du dessin d'ailleurs, mais sous une toute autre forme. Donc, cette technique, je pourrais dire, est vraiment associée à cette intention de traiter ce type d'image, quoi.
Pour parler justement du traitement de ces images, une petite histoire. Donc, je me suis rendue hier soir à l'exposition. Je n'avais pas lu les cartels ni les textes qui étaient proposés parce que j'aime bien déjà regarder avant de lire. J'ai eu une impression de douceur durant la visite de votre solo show, en tout cas les premières œuvres, mais un peu comme si la même impression qu'on peut avoir quand on est dans un rêve agréable, mais qu'il y a quelque chose qui cloche.
Voilà, il y a un problème. C'est pas si agréable que ça et on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et ensuite, j'ai lu les textes tout ce qui était en lien avec votre travail et justement ces images d'origine que vous retravaillez, que vous repensez. Et en lisant des articles sur votre travail, plusieurs personnes parlent effectivement de résilience artistique, de rédemption. Alors maintenant, voilà, partons au cœur de ces sujets que vous traitez. Quelle est l'histoire que vous voulez raconter?
Oui, mais c'est intéressant la manière dont vous avez pu ressentir comme ça cette approche en voyant les dessins, parce qu'effectivement, il y a cette idée dans mon travail de, comment on pourrait dire, d'un retour de flamme, quoi, retour de bâton dans la figure, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs temps d'approche de l'œuvre. Il y a une approche vraiment purement visuelle, on pourrait dire esthétique, qui est presque comme un leurre finalement. Et puis il y a la lecture du titre qui est quand même assez importante dans mes œuvres, car elle est vraiment un des seuls ancrages finalement encore au réel. Et puis ensuite, on bascule un peu dans le troisième état d'interprétation et de lecture. Donc, c'est intéressant que vous l'ayez ressenti déjà en rentrant directement dans l'exposition. Après, sur la nature, effectivement, oui, des images. Ici, dans l'exposition, c'est un peu la première fois, en fait, dans l'ensemble des œuvres que j'ai fait jusqu'à maintenant, il y avait toujours une attention portée sur la vulnérabilité, en tout cas des sujets qui sont photographiés de manière extrêmement incisive, de manière très proche physiquement du photographe, c'est-à-dire que je n'utilise pas comme source de travail des images qui sont prises au téléobjectif, par exemple, ou qui sont relativement distantes du sujet. Il y a toujours une espèce de proximité. Je respecte aussi toujours dans mes dessins le ratio, l'échelle 1 de ce qui est représenté à l'origine. C'est pour ça que les petits formats, par exemple, sont plus de l'ordre du visage ou du portrait ou même d'un détail, mais à échelle 1. Et puis les plus grands formats sont vraiment, par exemple, le triptyque qui est présenté dans l'exposition, c'est vraiment à partir d'une scène d'incendie dans une forêt en Grèce. Donc il est vraiment à échelle comme si on se trouvait dans le paysage, en fait. Et je pourrais dire que ici, c'est un peu la première fois finalement que dans mes images sources, donc pour moi c'est vraiment, ces images-là sont vraiment une base de travail, une espèce de matière plastique, une matière mouvante, qui n'a pas vraiment de forme aussi, parce que les images numériques, en fait ça n'a pas enfin c'est de la lumière quoi sur un écran, ça n'a pas vraiment de dimension définie, ni d'existence physique. Et là, c'est la première fois qu'il n'y a pas d'être humain, en fait, dans les sources que j'utilise. Il y a plutôt des paysages, donc des paysages dévastés, détruits. La terre en tant qu'entité, on pourrait dire, qui se consume dans ces images-là. Il y a aussi des animaux et des forêts, des éléments plus de l'ordre de la nature. Et ça, c'était aussi en discutant avec Elsa Bezori, la commissaire, que ça s'est construit petit à petit et que toute cette idée aussi, tout cet espace du cellier m'a aussi inspiré énormément, parce que toute l'idée du projet d'hier, je parle aussi des autres œuvres que les feutres, il y a cette idée de plonger quand même en profondeur, quoi, en sous-sol, et de tout d'un coup être confronté à quelque chose qui pourrait être perçu comme quelque chose qui revient à la figure. Donc tout ça fait partie d'un ensemble de choix plastique et esthétique, mais aussi inspiré par le lieu. Donc en tout cas, oui, pour répondre à la question, la nature des sujets est en tout cas toujours de l'ordre de la violence, que ce soit émotionnelle, physique ou juste visuelle, en fait. Il y a toujours une nature violente dans les images que j'utilise comme source. Ce flou vient en réponse.
Il y a une envie de déclencher chez les spectateurs de l'empathie, du questionnement, ou c'est laissé beaucoup plus libre au niveau de l'interprétation et des sentiments que ça peut mettre en branle chez les individus?
Je pense qu'on peut apprécier une œuvre d'art toujours un peu à différents niveaux. Après, oui, dans l'idée, j'ose espérer qu'on sent qu'on n'est pas dans la pure abstraction, comme vous avez dit, qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose derrière, qu'il y a une source photographique, une source qui représente le réel. Je pense que ça se sent quand on voit mes œuvres, donc ça suscite forcément un questionnement et peut-être une sorte aussi de démarche de de devoirs de mémoire, parce que finalement, il n'y a que des dates et des lieux géographiques comme indication concrète. Et donc l'idée est peut-être aussi de se questionner sur ce qui s'est passé à tel endroit, à tel moment, dans tel pays. Et aussi il y a un questionnement, enfin une volonté de questionner aussi sur le rapport à la couleur et à la presque à la retouche de toutes ces images en fait, parce qu'il faut quand même pas oublier que toutes ces images quand même dans la presse, dans les médias, sont quand même majoritairement toujours retouchées, assez saturées. Dans le cas des incendies, par exemple, il y a quand même un phénomène d'esthétisation qui est très très fort de l'imaginaire, de l'imagerie de l'incendie. Donc, parfois, il y a aussi, je pense, une sensation que mes dessins sont peut-être assez chatoyants, assez beaux, ou, enfin, ce qui n'est pas vraiment l'intention au final, mais qui permet aussi de se questionner sur pourquoi ces couleurs sont si saturées, pourquoi, enfin, quelle est la nature de ces sources en fait. Après, je pense que l'interprétation est aussi libre et il y a aussi une porte ouverte à l'imagination. C'est aussi ce qu'amène le flou. Le flou, comme procédé, vraiment amène une espèce d'ouverture et à la fois une protection, quoi. C'est un peu une double fonction.
J'allais vous demander justement par rapport au flou qui est un choix et qui devient presque une obligation par la technique utilisée et ce feutre en fait. Ce flou, il est là aussi pour apporter de la netteté dans notre façon de penser les événements, justement forcer la mémoire par rapport à des dates, à des lieux qui sont indiqués.
Oui, il y a en effet un peu cette idée-là. Il y a aussi l'idée de protection, d'anonymisation de ces sujets-là, de mise à distance évidemment. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est que ce flou, en fait, est évidemment un flou, enfin une technique mentale de dessinateur pure, mais c'est aussi provoqué par la technique, parce que mes crayons sont très très secs et en fait presque agressifs sur ce feutre-là. Il vient presque défeutrer le travail de feutrage et sortir comme ça, faire pelucher la matière. Et en fait, bon, comme je dis souvent, même avec un crayon très très bien taillé, je ne pourrais pas faire un trait aussi précis que sur du papier. Il y a d'office en fait un mélange extrême entre les pigments et la fibre qui fait qu'on est forcément déjà dans le trouble. Donc il y a à la fois un flou maîtrisé et un flou qui vient de la technique qui est un petit peu plus aléatoire, quoi. Et ça, je trouve ça assez fascinant comme matière de travail, parce qu'il y a finalement une part que je ne maîtrise pas non plus complètement.
Oh,
Léa Belousovitch, Lisière. Exposition Arcadia au Cellier, émission spéciale. Et vous êtes sur les ondes de Radio Primitive.
Alors, il y a d'autres techniques qui sont proposées dans le solo show. Vous nous en avez dit quelques mots. Il est question de bronze, de photos.
Oui.
Là aussi, un mot sur ces travaux.
Oui, bah en effet, donc il y a un ensemble de 3 sculptures en bronze qui sont un ensemble de sculptures d'une série qui s'appelle Shouting Vase. Donc, ça veut vraiment dire les vases de cris, de colère. Et c'est un ensemble, c'est un travail de sculpture, en fait, qui prend comme point de départ un gadget sur un site de gadget japonais que j'ai trouvé sur Internet un peu par hasard au cours de différentes recherches, qui était présenté comme un petit vase en plastique, vraiment de pas très bonne qualité, qui est donc la même forme que la sculpture qu'on voit dans l'exposition, mais sans le couvercle. Et qui était un objet avec des faux effets de coulure en relief, comme si c'était une espèce de poterie. Et il y a un petit tube en fait à l'intérieur qui permet en fait d'atténuer le cri. Donc en fait c'est un espèce d'ustensile qui sert à hurler à l'intérieur et à atténuer complètement ce cri, cette colère. Et donc il y avait des publicités en japonais qui vantaient les mérites de ce vase et tout ça. Donc moi à la base c'était parti de quelque chose d'un petit peu humoristique. Et puis j'ai acheté l'objet et puis s'en est suivi quand même tout un travail de recherche sur parce que bon ça reflète quand même un certain besoin, un certain aspect de la société qui est quand même assez fort, sur en particulier au Japon où les émotions sont quand même assez maîtrisées. Et donc à partir de cet objet-là, j'ai décidé de le transformer en une espèce d'urne, en fait, on pourrait dire, ou de petite boîte de Pandore, en le ponçant d'abord complètement, le lissant à la main, ce qui était assez fastidieux, en lui créant un couvercle en forme de sphère, et ensuite en coulant cet objet-là en bronze. Donc c'est un bronze noir avec une patine noire, assez mate. Et sur ces sphères, donc qui font office de couvercle, sont gravés des mots qui sont issus d'un ouvrage qui s'appelle Les émotions de la Terre, d'un philosophe qui s'appelle Glenn Albrecht, qui propose en fait un certain nombre de nouveaux mots, de champs lexical, qui pourraient décrire des émotions qu'on ressent face à l'état de dégradation de la planète. Donc ici dans l'exposition, il y a donc les mots solastalgie, éco-anxiété et théraphurie, qui sont des mots qui font partie de ce lexique de ce philosophe comme mot proposé. Solastalgie, éco-anxiété, on a quand même beaucoup déjà entendu parler. Je crois que l'anxiété est quand même bien rentrée dans le langage courant maintenant. Théraphurie peut-être un peu moins, mais voilà, ce sont 3 mots qui traduisent en tout cas des états de colère, de rage, d'anxiété, de nostalgie face à l'état de la Terre. Et donc avec Elsa dans l'exposition, on a décidé de les présenter sous ces coiffes en plexiglas sur des socles, un peu comme si c'était des artefacts finalement archéologiques de notre époque, mais un petit peu en avance, enfin voilà, et avec une couleur de fond et de présentation qui rappelle évidemment la terre, un côté peut-être terreux aussi et ancestral du bronze, parce que le bronze est quand même une technique très ancienne évidemment. L'objet est assez lourd au final aussi, il y a quelque chose d'un peu scellé, et puis après on interprète aussi un peu différentes choses, mais c'est vrai que cette sphère qui vient fermer le vase, en fait le haut du vase a une forme de contre-bouche qui est censée donc épouser la forme de la bouche, donc cette boule vient un peu comme une boule dans la gorge ou quelque chose comme ça, quelque chose qui ferme, qui emprisonne en tout cas des cris métaphoriques à l'intérieur. Il y a aussi un travail photographique, donc toujours dans cette idée de plonger comme ça en profondeur et d'être confronté à des choses pas forcément agréables, ou en tout cas des fantômes du passé. Il y a quelques œuvres d'un ensemble qui s'appelle Les Oubliés, que j'ai commencé il y a très longtemps, et dont j'ai plusieurs images, et là c'est vraiment la première fois, c'est une belle occasion de les montrer vraiment dans une salle dédiée à ce projet. Et donc c'est un projet de sauvetage photographique, donc ce sont des petits négatifs photos que j'ai retrouvés dans la cave d'une maison de famille qui avait été inondée complètement et qui était donc complètement moisie, collée les uns aux autres, complètement détruits en fait. Que j'ai commencé à nettoyer, à décoller, à scanner en très haute définition et à réimprimer donc sur un papier photo et sur un tissu ici dans l'exposition en très grand format. Voilà, de manière à faire en sorte de faire apparaître tout ce qui est dégradation du temps, champignons et altération chimique de l'objet photographique sur ces images. Et ces images sont en relation dans l'exposition avec cette sculpture, donc qui est un puits en pierre qui s'appelle la vérité sortant du puits.
Qui est un élément central dans la mise en scène, la scénographie de l'exposition.
Oui, tout à fait. En fait, l'œuvre fait vraiment office de pivot entre la première salle et en relation très forte, évidemment, avec les scènes d'incendie et puis ce qui se passe à la suite du parcours, donc avec ces images immergées des profondeurs qui remontent. Donc, c'est une œuvre qui s'appelle « La vérité sortant du puits » et qui présente donc un puits en pierre, en briques, pardon, qui sont fabriquées une par une à la main. Et qui est rempli de petites billes en verre, un verre un peu sablé comme ça, turquoise, sur lesquelles sont gravés des prénoms d'enfants qui sont issus d'une base de données d'Interpol, qui listent en fait les prénoms d'enfants qui sont disparus, déclarés disparus et donc recherchés par Interpol à travers le monde. Donc tous ces prénoms sont gravés un par un sur des billes, voilà, et toutes ces billes remontent à la surface. Il y avait encore cette idée, évidemment, d'être déjà dans un sous-sol et de supposer que ce puits pourrait amener à des niveaux encore inférieurs, mais voilà, que ces éléments remontent à un moment à notre surface, à notre œil, sans remonter complètement à la surface, d'ailleurs. Voilà, donc c'est une pièce tout à fait nouvelle que le projet ici au CEGE m'a permis de concrétiser. Et c'est vrai qu'elle est assez... centrale et importante dans tout le projet. Elle pourrait aussi être perçue comme une espèce de puits asséché où l'eau serait complètement figée. Enfin voilà, on peut y voir évidemment plusieurs choses. C'est vraiment cette idée de vérité de société, vérité du réel qui remonte à la surface, que ce soit à la surface d'un puits ou à la surface de l'œil en fait, parmi les dessins, avec les dessins.
Un mot sur le lieu. Il faut descendre, en tout cas pour la salle d'exposition, il faut descendre au sous-sol. C'est des pièces aveugles. Mmh. Qu'est-ce que vous avez pensé du lieu lorsque vous l'avez découvert?
Ça a vraiment fait partie de la construction de tout le projet d'exposition parce qu'il y a cette idée vraiment, oui, de plonger en sous-sol, d'être sans fenêtre, d'être sans lumière naturelle, sans réseau, sans distraction quelque part. De pouvoir, je pense que c'est un espace qui permet de se... Comment expliquer? Presque de se recueillir en fait, ou de rentrer dans une espèce de d'intimité, de quelque chose de calme. Quand je faisais des visites guidées par exemple, je remarquais que tout le monde se mettait à chuchoter absolument. Il y a quelque chose peut-être d'un peu sacré qui se passe, je trouve, à l'intérieur. Alors pourtant, voilà, c'est un ancien cellier à Champagne, c'est pas du tout un lieu religieux par exemple ou quoi, mais je trouve que la pierre, par exemple, le fait que ce soit tout en pierre, avec des rapiécements au sol, tout le sol est rapiécé à plusieurs endroits. Il y a cette froideur de la pierre qui est quand même assez présente. Et tout ça sont des éléments qui font que ça participe aussi au fait que peut-être ça fonctionne bien avec l'idée de se recueillir, voilà, de venir au-dessus d'un puits où on peut imaginer se recueillir. Devant ce triptyque qui est vraiment sur ce mur en arc de cercle qui rappelle peut-être certains éléments architecturaux religieux. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas moi en tant qu'artiste, quand j'ai visité la première fois, qui m'a beaucoup inspirée en fait. Et le fait aussi qu'on circule, c'est-à-dire qu'on a décidé avec Elsa aussi de faire une exposition qui soit pas traversante, c'est-à-dire qu'on entre dans un espace, on va jusqu'au bout des trois salles et on doit revenir sur nos pas. Quelque part, c'est aussi encore une manière de, voilà, d'avoir encore un retour, un deuxième regard. Et ça, j'y tenais beaucoup à ce que ce ne soit pas une exposition passage, quoi, traversante, à ce qu'on puisse faire des allers-retours entre les œuvres et la scénographie, quoi. Donc voilà, non mais c'est un espace assez atypique en fait pour une exposition, mais qui en tout cas dans le cadre de mon travail, j'ai l'impression, a une valeur ajoutée, quoi.
Alors on est en février 2024, début d'année 2024. Avant de se dire au revoir, quels sont les projets pour le reste de l'année ?
Pour le printemps, je vais participer à deux foires d'art contemporain, donc Art Paris à Paris et puis Mi-Art à Milan, avec la galerie de Paris, la galerie Paris B. J'ai un projet d'exposition, en fait, dans le cadre, c'est une biennale d'art dans l'espace public à Bruxelles, où justement sera réexposé le Puy, mais cette fois sous une version pour l'extérieur, donc... Il sera vraiment présenté au centre d'une pelouse, dans un grand cloître, voilà, dans un parc. Donc ça va, je pense, amener encore une autre dimension à cette œuvre qui est très intéressante. Et puis après, un projet d'exposition de groupe à la rentrée en septembre. Et puis je prépare en fait aussi doucement ma prochaine exposition personnelle à la Galerie de Paris pour 2025.
Troisième chapitre de cette émission. Après un passage à la fileuse pour rencontrer Elsa Bézori, un détour par les studios de Radio Primitive pour une interview par téléphone de Léa Belousovitch, nous nous rendons maintenant au Cellier. La dernière invitée de cette émission nous attend dans l'espace d'exposition.
Je suis Fanny Marlot, je suis responsable des arts visuels et des expositions au sein du Cellier.
Aujourd'hui, pour cette interview, nous sommes au Cellier, dans l'espace d'exposition. Prenons un temps pour redéfinir ce qu'est le Cellier.
Alors, le Cellier, c'est un ancien cellier du coup de Champagne, Moum plus Jacquard, qui a été rénové en plusieurs salles, dont une salle d'exposition de 600 mètres carrés, mais également des salles de spectacle, où on propose du théâtre, de la danse et une salle de création.
Alors, si aujourd'hui on est ensemble, c'est dans un premier temps pour parler des deux solo shows qui sont proposés jusqu'à début mars, des solo shows qui sont aussi accompagnés de visites commentées. Quelle est l'envie du Cellier par rapport au public en ce qui concerne les expositions, ce type d'exposition ?
Alors, il paraissait important pour cette exposition d'art contemporain d'avoir une médiation pour le public. En général, c'est le samedi à 15h. Donc, c'est une jeune étudiante à l'ESSAD, en fait, qui vient faire la présentation pendant une heure et qui répond également aux questions des personnes. Mais ça permet d'appréhender vraiment l'exposition et les caractéristiques de l'exposition qui ne sont pas forcément faciles au premier abord. Et donc, ça permet vraiment une bonne compréhension pour un public, voire un public aussi familial.
Il y a cette dimension, dès le départ, au moment de l'ouverture du Cellier, d'avoir cette attention envers le public, quel qu'il soit, c'est-à-dire un public habitué de l'art contemporain, tout comme un public qui se dit, tiens, quel est ce bâtiment qui est à côté de la ville, de la mairie de Reims, c'est-à-dire au cœur du centre-ville historique.
Oui, tout à fait. Il était important du coup de proposer aussi différents types de visites. Donc on propose des visites aux agents de la ville, également des visites un peu plus spécialisées aux amis du FRAC ou pour des personnes voilà, qui sont un peu plus pointues au niveau artistique, et aussi des visites grand public, justement avec une médiatrice le samedi pour le public familial et autres. Ça permet vraiment de toucher un maximum de personnes.
Pour l'exposition dont on parle aujourd'hui, il y a déjà de nombreuses visites commentées qui ont eu lieu, hein, puisqu'elle va vers sa fin, elle touche à sa fin. Quels sont les retours, quels retours la médiatrice peut-elle entendre lors de ces visites commentées ?
Alors, ce qui ressort des visites, c'est une très bonne compréhension, parce que les gens, c'est vrai, quand ils déambulent sans avoir le fondement de l'exposition, donc le regard, finalement, leur ressenti personnel, et ils comprennent énormément de choses avec la médiatrice et peuvent aussi poser beaucoup de questions pour appréhender au mieux l'exposition et comprendre enfin, l'art, en fait, ce que veulent dire les artistes vraiment à travers ces œuvres.
Qui dit famille dit jeune public, éventuellement. Comment on fait pour adapter le propos au jeune public, parce que là, ce n'est pas une exposition pensée jeune public, loin de là.
Oui,
les œuvres sont même visuellement sont douces pour certaines, le terme n'est peut-être pas approprié, mais en tout cas, le propos est dur. Comment on fait pour amener tout cela quand on a un public aussi hétérogène ?
Alors justement, moi, je vais accueillir des classes de CP vendredi. Donc, c'est sûr que le sujet, surtout au niveau des œuvres de Léa, est assez dur, mais on peut faire comprendre par rapport à la réflexion, justement, sans rentrer vraiment dans les détails, et le traitement. Le traitement est complètement différent entre la matière qui est très vaporeuse, très douce, voire onirique, et le sujet qui est un peu dramatique, qui reste quand même des feux de forêt, des animaux morts. Et bon, sans rentrer dans les détails, c'est vrai qu'on peut tout à fait expliquer à des enfants qu'avec des choses du quotidien, on peut avoir des ressentis sans avoir l'image qui nous est rendue de manière violente, mais qu'au contraire, à travers des images beaucoup plus douces, on peut aussi comprendre des choses.
Vous parlez d'enfants de classe de CP, ce qui veut dire qu'il y a, au-delà du public famille, tout à chacun, un public scolaire qui se rend au Cellier ?
Alors voilà, on a des demandes, effectivement, de professeurs d'art ou d'institutrices de primaire qui souhaitent venir montrer une exposition à leurs élèves. Et le tout est de s'adapter, justement, de leur faire appréhender l'art aussi de manière différente et de se mettre un peu au niveau des enfants pour qu'ils comprennent cette première approche.
Je profite de ce petit focus sur les scolaires. pour vous demander si le cellier s'inscrit dans les itinéraires, donc les propositions de la ville de Reims dans le cadre des EAC, donc d'éducation artistique et culturelle.
Tout à fait, justement, on a deux classes cette semaine, donc dans le cadre des itinéraires, et c'est dans ce cadre-là qu'on va les accueillir. On va leur faire une visite du cellier, de la salle Michel, de la salle du coup de programmation artistique, mais également de l'exposition, de la salle d'exposition, pour qu'ils appréhendent le lieu en entier et qu'ils connaissent ce lieu qui propose beaucoup de choses.
Les auditeurs et auditrices ont encore une semaine pour venir voir l'exposition. Quelle est la suite? Quelle offre culturelle va proposer le cellier? Déjà peut-être pour les expositions, les arts plastiques et autres, et ensuite, car il n'y a pas que des expositions au cellier, le reste des propositions artistiques.
Alors au niveau des expositions, la prochaine se débutera fin mai, donc à partir du 24 mai, et donc ça sera un troisième cycle avec le jeu de paume, et ça sera une exposition sur l'histoire de sport, donc qui s'inscrit un peu en 2024 en adéquation avec les Jeux Olympiques, et ça sera des photographies de sportifs amateurs ou professionnels, voilà, qui seront présentés au sein de cet espace niveau-là, au cellier.
Des photos qui viennent des fonds du jeu de paume?
Ça sera pas seulement du fond du jeu de paume, mais également d'une médiathèque qui travaille avec eux pour avoir au moins 150 photos, voilà, qui pourront permettre vraiment d'appréhender dans une globalité le sport.
Des photos aussi bien anciennes que récentes?
Il y aura des photos, tout à fait, donc il y aura plusieurs photographes, et ce ne sera pas qu'un même photographe, il y aura plusieurs photographes, et il y aura des photos actuelles comme des photos vraiment anciennes, pour avoir un panel assez complet, en fait, du sport et des sportifs amateurs ou professionnels, pour avoir aussi des regards différents, de photographes différents.
Alors, pour ceux qui ne sont encore jamais venus au cellier, là, nous sommes en sous-sol, puisque l'espace d'exposition est en sous-sol. Si on remonte les étages, les propositions qui se passent aux étages supérieurs?
Alors, nous avons donc dans la salle principalement Michel, qui est une salle de spectacle, donc des pièces de théâtre qui vont jouer les prochaines semaines. Et également, on accueille le Pop Woman Festival du 6 au 9. Donc ça peut être très intéressant aussi d'avoir des propositions comme ça pluridisciplinaires et d'accueillir un maximum de monde. Alors du coup, le Pop Woman Festival, c'est un événement pop culture avec plusieurs disciplines artistiques qui met différentes expressions de la créativité féminine. Alors le festival propose des expositions, des rencontres croisées, des tables rondes, des concerts dessinés, des lectures musicales, des dédicaces avec des artistes de tous horizons.
Donc début mars. Et on a le droit d'explorer la programmation du cellier pour, peut-être pas toute l'année 2024, mais au moins le trimestre à venir.
Tout à fait. Donc on a un petit fascicule qui recense toutes les programmations en fait jusqu'au mois de mars, fin mars. Donc on a aussi des lectures musicales dans le cadre des Printemps des Poètes et des cycles de conférences autour des flâneries musicales. Et après, il y aura un autre cycle jusqu'au mois de septembre avec des propositions pour l'été et des choses aussi nouvelles.
L'ensemble de la programmation, on peut la trouver sur le Trésor?
Tout à fait. Donc vous avez sur le Trésor ou sur le site de la ville de Reims où tout est indiqué.
Cette émission est terminée. Radio Primitive remercie la ville de Reims, le cellier, Léa Belousovic, Elsa Bézori et Fanny Marlot. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le site du Trésor www.infoculture-reims.fr. Toutes les informations concernant les visites commentées s'y trouvent. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio Primitive en podcast dans la rubrique Émission spéciale Radio Primitive et la ville de Reims présente.
What power art thou, from below, hast made mirror, eyes unwillingly. bi i i ta ko o o old. I can't stand.